C'est une évidence, mieux vaut tendre la main que de taper sur les doigts. Les coups que reçoivent pourtant les enfants, on le sait, sont d'une extrême violence. Ils sont plus de 300 millions au monde à endurer des situations extrêmes, enfants de la rue, enfants soldats. Rien qu'en France, 2 millions d'enfants connaissent une vie sous le seuil de la pauvreté. Chantal Minguenet, fondatrice de Montmartre.
Je crois qu'on ne peut pas du tout faire une échelle de la souffrance ou des états comparatifs. Après, des enfants en difficulté, évidemment, et on a plein les rues dans Paris. La difficulté, elle prend différentes formes. Nous, on accueille des enfants qui ont des conditions de logement très précaires, des chambres d'hôtel, ils sont à 5 enfants dans la même chambre, avec les parents au bout du couloir dans une autre chambre. Bon, voilà, ça, c'est une réalité. Il y a plein de situations très différentes.
À l'origine de la marginalisation d'un être, très souvent le sentiment de honte, ainsi que l'explique le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron.
Absolument, parce que lorsque nous nous occupons d'enfants ou d'ailleurs d'adultes en grande difficulté, il est rare que nous ne croisions pas la honte à un moment ou à un autre. Alors la honte, parfois pour des comportements délictueux que ces personnes ont pu avoir, mais c'est le plus rare. Le plus fréquent, c'est la honte qui résulte d'avoir été marginalisé. Quand on met quelqu'un à l'écart, quand on le maltraite, quand on l'humilie, eh bien ça génère chez cette personne un sentiment de honte. Et le propre de la honte, après, ça va être d'assassiner les autres émotions. Les gens qui sont dans la honte, ils ont beaucoup de peine à retrouver le fil de leur joie, de leur plaisir, mais aussi de leur colère, de leur rage, de leurs angoisses, de leurs amertumes.
Partout à travers le monde, des expériences dites « alternatives » permettent à des enfants de surmonter l'obstacle qui les enferme. Exemple, les enfants de Gamba Aceh, en Indonésie, dévastés, on le sait, par le tsunami de 2004. Eh bien, c'est eux-mêmes qui ont trouvé la méthode, Martine Roussel-Adam.
En Indonésie, c'était après le tsunami du 26 décembre 2004. C'est une ONG dont on a repris une partie des activités qui avait installé en plein milieu des centres de réfugiés des espaces ludiques pour les enfants, partant de l'idée que beaucoup d'enfants qui ne mangeaient plus parce qu'ils étaient complètement traumatisés par tout ce qui s'était passé et que ça servait à rien de leur mettre des assiettes de riz sous le nez, ça ne les faisait pas pour autant manger. Donc ils ont installé ces espaces ludiques. Et ce qu'il y a eu d'extraordinaire, donc là les enfants sont venus parce qu'ils étaient dans des espaces protégés, loin de toutes les difficultés qu'ils rencontraient. Le phénomène qui nous a beaucoup intéressés, c'est qu'ils ont inventé eux-mêmes un jeu. Et ce jeu s'appelle le jeu du tsunami. C'est-à-dire que, alors qu'ils étaient tous installés à faire leurs activités, tout à coup, un des enfants criait « tsunami ». Et là, tous les enfants devaient partir en courant en emportant le maximum de choses. Et puis après, ils revenaient et comparaient leurs butins respectifs. Ils ont recommencé ce jeu pendant des semaines et des semaines jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait en montrant son butin. Ça y est, cette fois, j'ai pris assez. Donc, c'était très émouvant de voir comment ils ont pu reconstituer et quelque part réparer la catastrophe par le jeu.
Les jardiniers de l'âme, Martine Roussel-Adam consacre ce livre merveilleux à ses initiatives à travers le monde. Exemple, en Normandie, Gérard Garouste, son nom est aussi synonyme de la source, à Marcilly-sur-Eure.
Oui, alors Gérard Garouste est un peintre, comme vous le savez, un peintre très connu, qui a eu lui-même une enfance assez difficile et qui a pu s'en sortir grâce à la peinture. Et un jour, il est arrivé dans un village de Normandie, donc pas loin de chez nous, où il a été frappé de voir la situation de certaines familles. Et il s'est même un petit peu fâché contre le maire du village en lui disant « Mais qu'est-ce que vous faites pour tous ces enfants ?» L'adjoint au maire lui a répondu « Mais si vous êtes si malin, faites quelque chose à ce moment-là, parce que nous, on essaie, on n'y arrive pas. » Et c'est là que ça a été pour lui l'élément déclencheur. Et il a lancé un centre qui s'appelle « La Source », où les enfants viennent le mercredi, le samedi et le dimanche pour rencontrer des artistes et avoir accès à l'art. Et quand on parle avec Gérard Garouste, qu'on lui demande « Mais qu'est-ce que vous voulez exactement faire avec ces enfants ?» Il dit « L'objectif, c'est de les éveiller à l'art, non pas pour en faire des artistes, mais pour en faire des êtres de désir. » Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que dans ces situations-là, le désir n'existe même plus parce qu'il n'y a plus d'avenir.
Pour Antonella Verdiani, formatrice, les êtres doivent réapprendre leur noblesse. Elle est du reste l'auteur de « Souviens-toi de ta noblesse » et n'hésite pas à parler d'éducation à la joie. Pour Serge Tisseron, nul être ne peut survivre s'il n'a jamais vécu de moments positifs. Ce sont ceux-là qu'il faut donc faire renaître.
Vous savez, il est très difficile de permettre à un adulte ou à un adolescent d'avoir des expériences correctrices de grandes tragédies qu'il a pu vivre. Quand quelqu'un était terriblement maltraité, terriblement humilié, on ne peut pas à l'âge adulte, proposer des expériences correctrices. La seule chose qu'on peut faire, c'est s'appuyer sur des bonnes expériences qui ont eu lieu par le passé. S'appuyer dessus pour les faire grandir, les faire croître, et que finalement, elles s'opposent aux expériences destructrices. Et je crois qu'il faut partir de l'idée que tout le monde a fait des expériences positives quand il était petit, parce que sinon, s'il ne les avait pas faites, il se serait laissé mourir. Vous savez, un tout petit est toujours entre la vie et la mort, et si les expériences négatives l'emportent sur les positives dans la toute petite enfance, le sujet se laisse mourir. Donc ces enfants ou ces adultes vivants que nous avons devant nous, quelles que soient les tragédies qu'ils ont vécues, portent en eux des expériences positives qu'il faut que nous apprenions à repérer et puis à faire grandir avec eux.
Instinct de vie qu'il faut retrouver telle l'aiguille dans la meule de foin, les initiatives pionnières prouvent jusque dans les cas extrêmes que cela est possible. Exemple, en Colombie, avec le cirque.
Deux artistes de cirque sont allés il y a 20 ans s'installer, ont monté la première école de cirque. Et c'est très attirant pour des enfants qui sont en situation de violence de faire quelque chose qui les pousse à un dépassement d'eux-mêmes. Et aussi, ils apprennent ainsi à se faire confiance les uns des autres, ce qui n'est pas du tout évident dans ces climats-là. Parce que quand on fait une pirouette, par exemple, il faut avoir deux personnes qui sont là pour protéger et pour récupérer. S'ils n'ont pas confiance dans l'autre, ils ne font pas la pirouette. Et en même temps, ça leur permet aussi d'apprendre qu'il y a des cadres pour tout. C'est-à-dire qu'ils ont la liberté d'aller à l'école de cirque ou de ne pas y aller. Ça, c'est leur choix personnel. Mais par contre, s'ils vont à l'école de cirque, c'est sans la bouteille de colle. Ils le savent. Et puis, si c'est trop dur pour eux et qu'ils veulent quand même reprendre la bouteille de colle ou autre drogue, ils peuvent le faire, mais ils ne vont plus au cirque.
À Paris, les 400 coups à la Truffaut restent une réalité pour trop d'enfants, mais quand Gavroche se rattrape, eh bien, ça marche. Chantal Minguenet.
J'ai en tête un exemple d'un petit garçon qui vivait en circuit extrêmement fermé avec une maman dépressive. Et quelque part, ça donnait pas grand-chose de bien parce que y avait, le ton montait, ça commençait à devenir très tendu, voire limite violent. L'école nous a orienté cet enfant parce qu'il fallait le sortir aussi de ce contexte-là et faire en sorte qu'il puisse prendre une place par rapport à sa mère qui était complètement dans l'incapacité de mettre des limites, ses propres limites, elle ne les mettait pas. Et en fait, au bout de quelques temps à Montmartre, il a complètement changé d'attitude, on l'a vu changer même physiquement. Il est devenu vraiment très à l'aise et il a commencé à pouvoir échanger avec sa mère, à communiquer. Donc ça a été dur au début, puis au fur et à mesure, elle a compris et elle l'a écouté. Et du coup, les choses ont changé et il a même manifesté des demandes qu'il n'aurait pas pu faire avant parce qu'il avait peur de la laisser. Il a demandé à partir en vacances avec une autre famille, il a demandé des choses dont il avait envie mais qu'il avait mis sous couvert. Parce qu'il était dans un circuit très très fermé et on ne lui laissait pas ce champ possible en fait.
Les chemins de la résilience sont imprévisibles. Pourquoi donc se priver de les explorer ? Les jardiniers de l'âme en sont les témoignages. C'est aux éditions Lattès, un précieux recueil d'expériences à la signature de Martine Roussel-Adam, fondatrice de l'association Chemin d'enfance.
Nothing like me yet. I could make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you, to make you feel my love, to make you